Il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures. Mel Emmanuel.
7 heures à Djikanou et partout en Côte d'Ivoire. 8 heures à Kinshasa. Bonjour à tous. Obligation de déclaration du patrimoine par les personnes assujetties. Les contrevenants ont jusqu'au 13 février 2024 pour se mettre en règle. En cas de non-respect de ce délai, ils seront exposés à des sanctions judiciaires. Une mesure que salue l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est aujourd'hui que se jouent les demi-finales de la compétition. Avant le match Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo, le coach par intérim des éléphants, Emers Faye, compte sur tout son groupe pour remporter la compétition. L'actualité hors de la Côte d'Ivoire nous conduira au Sénégal où la décision du report de la présidentielle au 15 décembre 2024 continue de diviser la classe politique, en l'occurrence les membres de la majorité présidentielle. Notre retour au pays se fera avec le parcours des titres de la presse ivoirienne paru ce jour. Et nous terminerons ce bulletin par l'invité de la rédaction. Sur le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, Dr Germain Cramo, enseignant d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, se prononcera sur les conséquences économiques que pourrait produire ce retrait sur les pays de l'Alliance des États du Sahel et l'organisation sous-régionale. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Obligation de déclaration du patrimoine par les personnes assujetties. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, profitant d'une rencontre qu'il a eue récemment avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a rappelé que les assujettis ont jusqu'au 13 février 2024 pour se mettre en règle. Passé ce délai, des actions judiciaires seront engagées contre les contrevenants. Cette mise en garde de la HABG est du reste saluée par l'ONG Civis Côte d'Ivoire à travers son président exécutif Christophe Kwame, qui fait le point par coopération des niveaux de déclaration. Nous l'écoutons.
La Haute Autorité a annoncé que 4% des magistrats n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. 6% des membres du gouvernement n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. Aussi, tous les présidents d'institutions, il y a 24% qui n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. 27% des gouverneurs des districts n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. 31% des députés n'ont pas encore déclaré son patrimoine. Président et vice-président des conseils régionaux, 39% parmi eux n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. Et enfin, les maires et les adjoints aux maires, vous avez 45% qui n'ont pas déclaré leur patrimoine. J'aimerais terminer pour dire qu'est puni d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir, soit dans l'emploi ou la fonction occupée ou à occuper, soit dans le mandat exercé ou à exercer, tout agent qui refuse de déclarer son patrimoine ou faire une fausse déclaration de patrimoine. Et la décision de condamnation est publiée relativement à l'article 75 du Code pénal.
C'était à l'instant le président exécutif de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, Christophe Kwame. Il a été joint par Jean-Claude Comé. Filière café-cacao, le président national du syndicat agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SINAPSI, a été convoqué et entendu par la brigade de recherche de la gendarmerie hier mardi à Abidjan. Après plusieurs heures d'audition en présence de son avocat, Kone Moussa revient sur les raisons de cette procédure engagée contre lui.
C'est le 3 janvier que moi j'ai eu à faire un point de presse où j'ai dénoncé le fait que le prix de cacao est trop petit puisque les pays qui nous entourent, le prix est plus vraiment supérieur que le nôtre. Le prix de cacao, et lorsque la production, on n'arrive pas à payer le cacao, on nous fait savoir que c'est la sous-production. Bon, lorsque maintenant il n'y a plus de cacao, où le prix est grimpé sur le marché mondial, alors encore, on lui donne un petit prix et on fait comprendre encore que l'État peut te donner 1000 francs. C'est ce que j'ai dénoncé, que le système qu'ils ont mis en place, ça ne profite pas aux producteurs. Donc moi, j'ai demandé qu'on revoie le système pour que les planteurs puissent bénéficier de l'effort de leur sueur. Et c'est ce que le DG des conseils café cacao a porté une plainte que non. Selon lui que j'ai appelé aux producteurs pour boycotter la canne qui se déroule actuellement et que j'ai dit qu'il n'y aura pas de canne et on va boycotter la canne. Donc c'est pour ça que je suis convoqué à la brigade de recherche.
Et donc vous vous êtes exprimé au niveau de la brigade et qu'est-ce que la gendarmerie retient?
Bon, j'étais auditionné, mais je suis présentement dans l'attendre du retour de ce que les gendarmes vont rendre compte au procureur. Je suis avec mon avocat.
Kone Moussa était en ligne avec Junior Cardin depuis la brigade de recherche et aux dernières nouvelles, le président du Synapsi a été prié de rentrer chez lui en attendant la suite de l'affaire. Un mot de football dans cette édition, Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est aujourd'hui que se joueront les demi-finales de la compétition. Elles mettront aux prises le Nigeria et l'Afrique du Sud au stade de la paix de Boaké à 17h, puis à 20h au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé. La Côte d'Ivoire sera opposée à la RDC, comme en 2015, au même stade de la compétition, voyant la victoire des Ivoiriens, 3-1. Pour le match de ce jour, la Côte d'Ivoire compte 4 joueurs absents pour cause de suspension. Mais pour le sélectionneur ivoirien par intérim, c'est tout son groupe de 27 joueurs qui est concerné par cette confrontation et qui va se battre pour une place en finale. On écoute Emers Faye.
On a un groupe de 27 joueurs. Depuis notre qualification, mon discours c'est on est 27 joueurs, on est tous ensemble. Si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra que le faire ensemble, les 27 joueurs, pas seulement les 11 qui démarrent ou les 5 ou 6 qui rentrent en jeu, mais tous ensemble. Donc là, sur le match, on a Oumar qui est suspendu, on a aussi Serge, on a aussi Christian, on a aussi Odilon qui sont suspendus. Donc on sait qu'on ne pourra pas compter sur eux physiquement sur le terrain, mais ils vont aussi de la tribune apporter de la force aux joueurs qui démarreront, et les joueurs qui démarreront vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Je pense que on a réussi à créer un groupe qui est très solidaire, qui veut se battre les uns pour les autres. Et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85e minute, ils sont tellement dans un bon état d'esprit qu'ils apportent quelque chose. Donc c'est toujours une perte de perdre des joueurs dans un groupe, mais les autres vont se battre et serrer les dents pour faire leur part de travail et essayer de nous qualifier pour la finale.
Nous écoutions le coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Faye Emers, lors de la conférence d'avant-match tenue hier mardi. Et du football, nous passons à une note de sécurité routière, mais toujours en rapport avec la CAN. La 12e semaine de la sécurité routière a été lancée officiellement le lundi 5 février dernier à San Pedro. Objectif, sensibiliser la population pour éviter les accidents de la circulation liés à l'euphorie de la célébration des victoires des éléphants de Côte d'Ivoire sur les routes. Pour Radio de la Paix, dans le Bassa Sandra, la correspondance de Kofi Benson.
Cette 12e semaine de la sécurité routière avec pour thème cohabitation des usagers de la route et protection des populations pourrait se résumer en un concept, l'humilité sur la route, selon Acté Innocent, représentant le directeur régional des transports à San Pedro.
La CAN, c'est une fête pour nous tous. Mais une fête, c'est dans la joie et la ferveur, et non dans la tristesse. Ça demande qu'il y ait l'humilité sur nos routes. Nous empruntons tous la même voie, piétons comme automobilistes et cyclistes. Donc nous devons nous comporter bien sur nos voies, pour ne pas qu'il y ait des accidents.
Pour le commissaire de police Cissé Adama de la cellule opérationnelle, il faut poursuivre la sensibilisation pour préserver des vies.
Avec la CAN, nous avons noté dans la ferveur certains comportements de nos populations qui ont tendance à occuper les voies. Et donc, cette situation crée des cas d'accidents que nous disons regrettables. Nous allons davantage sensibiliser les populations afin de préserver les vies qui nous sont chères.
Après la victoire des éléphants face au Mali, de nombreux cas d'accidents de la circulation ont été constatés et l'on peut éviter cela, selon Guédé Ida Eleonore, présidente de l'ONG Avir, agir pour protéger des vies sur la route.
Quand on est trop content et qu'on prend des risques inutiles, ça conduit à la mort. L'alcool fait partie des risques inutiles. Le samedi, dans la joie, nous avons déploré plusieurs cas d'accident. Au volant, ils ont fait des vitesses excessives. Certains se sont levés même sur des motos. Ce que je voudrais donner comme conseil, c'est de ne pas prendre de risques inutiles.
Évitez donc le plus possible les déplacements motorisés après la victoire des éléphants. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, au Sénégal, la majorité présidentielle divisée. Deux jours après le report de la présidentielle au 15 décembre 2024, adopté par le Parlement, les divisions se creusent au sein de la classe politique sénégalaise entre partisans et opposants à un report de ce scrutin. Des divisions qui se retrouvent jusque dans le camp du pouvoir. Après la démission dès samedi soir du secrétaire général du gouvernement, c'est au tour d'autres de marquer leur désapprobation. Et toujours au Sénégal, sur le même sujet, le Parlement a autorisé lundi par un vote à l'Assemblée nationale la prolongation du mandat du président Macky Sall. Mais il faut le souligner, ce vote s'est déroulé après l'évacuation des députés de l'opposition par la gendarmerie, nous explique Mamadou Thior, journaliste et analyste politique sénégalais, qui a été joint à Dakar par Jean-Claude Comé.
Les choses sont allées tellement vite parce qu'aussitôt annoncé ce samedi, le lundi, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi qui émane d'un parti censé être de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais qui était au pouvoir de 2000 à 2012. Mais ce parti n'a que 24 députés. Il a fallu que les 80 députés du président Macky Sall le soutiennent pour avoir les trois quarts du Parlement, c'est-à-dire 104 députés, pour que cette loi la passe. Mais ce qui s'est passé ce lundi aussi, c'est une loi qui a été passée au forceps parce que l'opposition a bloqué les travaux jusqu'à presque 22 heures et il a fallu que les gendarmes investissent l'intérieur du Parlement pour faire sortir manu militari les députés de l'opposition. Et c'est comme ça que cette loi-là a été adoptée.
Après donc ce vote-là, comment la classe politique réagit?
Cette loi-là, les 20 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, beaucoup ont déjà annoncé qu'ils vont l'attaquer et même les députés de l'opposition ont annoncé qu'ils vont l'attaquer. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. À partir du 2 avril, le président Macky Sall n'aura ni la légalité ni la légitimité parce que simplement, il est passé par une Assemblée nationale pour se faire augmenter 10 mois encore dans son mandat parce qu'il termine son mandat actuel le 2 avril 2021.
Vous venez d'écouter le journaliste et analyste politique sénégalais Mamadou Thior apportant des éclairages sur la situation sociopolitique au Sénégal. Il a été joint à Dakar par Jean-Claude Comé que nous retrouvons maintenant en studio pour la revue des titres des journaux ivoiriens parus ce jour. Bonjour Jean-Claude Comé.
Bonjour Melamani, bonjour à tous. Plus qu'un match pour la Côte d'Ivoire pour accéder à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et c'est le souhait affiché ce mercredi 7 février par la presse en ce jour de la confrontation entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. La nouvelle alliance prédit un duel à mort entre Léopard et Éléphant ce soir. Le rassemblement annonce, lui, un match palpitant. Ce soir, l'essor exhorte les pachydermes ivoiriens à rééditer l'exploit des précédents matchs. Pour Fraternité Matin, c'est sûr, les éléphants sont prêts à charger les léopards. Éléphants terrasser les léopards, ainsi aussi l'héritage. L'Inter pour situer sur l'enjeu de cette confrontation prévue en ces termes, éléphants, le dernier virage. Le journal relaie des propos des entraîneurs de la RDC et qui affirme que son équipe et lui ont bien travaillé l'adversaire quand celui de la Côte d'Ivoire affirme qu'il se doit de remporter cette victoire. Et comme pour montrer le chemin, le Patriote écrit en une, éléphants de Côte d'Ivoire ne lâchent rien. L'avenir s'inscrit également dans les ondes positives. Donc, avec ce titre, éléphant, c'est encore possible. Quand son confrère, le Nouveau Réveil, dans un jargon compris par les Ivoiriens et en référence à la chanson de l'artiste Amsir, affiche ce titre, éléphant, l'avant-dernier coup du marteau ce soir. Les Tigeants d'Abidjan, moins euphorique, s'interroge, demi-finale Côte d'Ivoire, RD Congo. Coup du marteau au Fimbu, danse congolaise. Le journal relève ce que les entraîneurs et joueurs des éléphants, les léopards du Nigeria et de l'Afrique du Sud ont dit hier. À l'occasion de cette demi-finale ce soir, Soir Info s'intéresse aux nouvelles dispositions sécuritaires prises après les 22 morts enregistrées suite à la qualification des éléphants pour les demi-finales et les quarts de finale. Et ce journal s'intéresse aussi à la sécurité maritime des Côtes d'Ivoire. Donc, et nous apprend que les États-Unis débloquent des milliards de francs CFA en soutien au pays. Au plan millier, annonce ce journal que le ministre Sangafoua Kulibaly, actuellement en Afrique du Sud, vend le potentiel géologique et minier ivoirien aux investisseurs. Fraternité Matin indique qu'à ce forum sur les mines en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire mobilise les grandes compagnies au plan et puis au plan santé. Le journal parle des services du CHU, donc le centre hospitalier universitaire de Yopougon, qui fonctionne actuellement après son ouverture. Merci.
Voici pour les titres de la presse ivoirienne de ce jour. Merci à Jean-Claude Comé, qu'on retrouvera à 8h également pour une autre revue des titres. Amorçons le dernier virage de ce bulletin avec l'invité de la rédaction. Retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Quelles conséquences économiques pour les pays de l'Alliance des États du Sahel et l'organisation sous-régionale? Docteur Germain Cramaud, enseignant d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et par ailleurs chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Docteur Germain Cramaud, bonjour.
Oui, bonjour, M. Koumé.
L'actualité dans la sous-région, c'est cette décision de retrait annoncée par trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Comment vous interprétez cette décision déjà?
C'était plus ou moins prévisible au regard des tensions qui existaient entre les deux parties, mais on avait toujours l'espoir que les choses s'arrangeraient, vu que de plus en plus on fait la promotion des regroupements régionaux pour pouvoir faciliter le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Les dirigeants de ces trois pays ont donné les raisons de ce retrait. Ils les reprochaient donc certaines choses à la CEDEAO. Mais pour vous, en tant qu'économiste, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision?
Le retrait de ces trois pays aura certainement des conséquences négatives sur les deux camps, aussi bien les pays qui se retirent que les autres pays de la CEDEAO, parce qu'il y a des liens qui existent déjà entre ces pays, qui permettent à ces pays d'échanger plus facilement. Donc il y a une suppression des droits de douane entre ces pays membres de la CEDEAO, mais avec leur retrait, ils deviennent des pays hors CEDEAO, donc il va falloir rétablir ces barrières tarifaires, donc ils vont avoir aussi un impact sur le coût de la vie des deux côtés. Mmh. À cette illustration, nous voyons que le Mali est le principal pays importateur intra-CEDEAO, avec 28% des importations intra-CEDEAO, suivi par la Côte d'Ivoire, 25%. Mmh. Donc nous voyons que là, ce sont des pays qui font du commerce avec les autres pays membres de l'UMOA, donc leur retrait pas impacter les deux camps.
Pour mieux comprendre les conséquences, la CEDEAO, justement, quels sont les avantages d'être membre?
Oui, les pays membres de la CEDEAO ont décidé de se regrouper pour supprimer tout ce qui est barrière tarifaire entre eux, donc ce qui permet de faciliter la circulation des biens et des personnes. Donc, on peut importer et exporter librement entre les pays de la CEDEAO. Et vis-à-vis des pays non membres de la CEDEAO, les pays ont adopté le même tarif extérieur commun. Et en termes de négociation aussi, généralement, les pays négocient en bloc avec d'autres partenaires extérieurs. Tout cela constitue des avantages. Et il y a des projets, je peux dire, sous-régionaux qui sont financés par la CEDEAO et qui permettent de renforcer tout plus ou moins les liens entre ces pays-là.
L'une des raisons avancées par donc les autorités de ces trois pays, Mali, Burkina et Niger, c'est donc ces décisions économiques prises contre des pays, notamment le Niger, avec cette asphyxie économique, ce sont les termes de ce communiqué. Est-ce que les textes de la CEDEAO prévoyaient donc ce type de sanctions?
Je pense que le fonctionnement de la CEDEAO est bien régi par des textes et lorsqu'il y a des changements anticonstitutionnels, il y a des textes et les textes prévoient la démarche à suivre. Je pense que si les décisions étaient contraires au texte de la CEDEAO, la voie la plus appropriée, c'est d'attaquer cette décision. On attaque la décision pour dire que cette décision est contraire à nos textes. Et je dis que même individuellement, les pays sont souverains, ils peuvent décider de commercer avec un pays ou pas.
Alors, vous l'avez dit, justement, comme conséquence, c'est par exemple l'imposition des taxes désormais aux frontières avec ces trois pays. Mais on note que le Burkina, le Mali et le Niger font encore partie de l'UEMOA. Alors, quels sont les avantages de rester encore membre de l'UEMOA par rapport à la CEDEAO?
La sortie de ces pays de la CEDEAO aura aussi un impact sur leur appartenance à l'UEMOA, puisque ces pays au sein de l'UEMOA aussi appliquent pratiquement les mêmes tests, c'est-à-dire la suppression des tarifs douaniers entre les pays membres. Donc si ces trois pays deviennent des pays non membres de la CEDEAO, donc les autres pays membres de l'UEMOA doivent appliquer aussi les mêmes tests qui régissent la CEDEAO relativement aux pays non.
Et quelles sont donc les perspectives qui s'offrent donc à ces trois pays désormais après cette décision, surtout au plan économique?
Selon moi, en termes de perspectives, c'est de réorganiser leurs échanges à travers le monde, parce que ces pays n'ont pas d'accès à la mer, donc il va falloir négocier avec d'autres pays pour faciliter le commerce avec l'extérieur. Et je pense que tout dépend de la stratégie que ces pays vont élaborer. Nous vivons dans un espace commun, donc il est important qu'on ait des relations de bon voisinage. Il y a des pays comme le Rwanda qui n'ont pas accès à la mer, mais qui connaissent un développement qui est cité en exemple à travers le continent. Donc le fait de ne pas avoir accès à la mer continue, je ne suis pas, je peux dire, un frein, mais tout dépend des relations du bon voisinage que ces pays vont entretenir avec les autres voisins. Donc, nous espérons que cette décision s'inscrit dans une stratégie globale qui permettra à ces pays d'amorcer le développement.
Justement, dans cette perspective stratégique, est-ce qu'on peut voir le retrait de ces trois pays aussi de la zone CFA avec la création d'une monnaie commune?
Oui, bon, il faut s'y attendre. Ils ne seront pas les premiers pays à avoir leur propre monnaie. Donc, je pense que pour moi, tout ce qui concerne la monnaie, c'est la gouvernance autour de cette monnaie. Qu'est-ce qu'on met pour gérer efficacement cette monnaie pour éviter que cette monnaie, au lieu d'être un instrument de développement, soit source de problèmes. Donc pour moi, le fait d'avoir leur monnaie n'est pas vraiment le principal défi. Le défi, c'est comment gérer efficacement cette monnaie pour que cette monnaie soit effectivement un instrument de développement économique.
Docteur Germain Cramo, je vous remercie.
Merci à vous.
Docteur Germain Cramo était l'invité de la rédaction et intervenait suite au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO et sur les conséquences économiques que pourrait engendrer ce retrait sur les pays concernés et l'organisation sous-régionale. Passons maintenant au rappel des titres de ce bulletin. Obligation de déclaration du patrimoine par les personnes assujetties. Les contrevenants ont jusqu'au 13 février 2024 pour se mettre en règle. En cas de non-respect de ce délai, ils seront exposés à des sanctions judiciaires. Une mesure que salue l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est aujourd'hui que se jouent les demi-finales de la compétition. Avant le match Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo, le coach par intérim des éléphants, Emers Faye, compte sur tout son groupe pour remporter la compétition. Et puis au Sénégal, la décision du report de la présidentielle au 15 décembre 2024 continue de diviser la classe politique, en l'occurrence les membres de la majorité présidentielle. Fin de ce bulletin, rendez-vous à 8h pour un autre parcours de l'actualité. D'ici là, partons au cœur de la CAN avec César Yao.
Au cœur de la CAN, toutes les infos sur le déroulement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations.